Europe 1.
Donald Trump est donc candidat aux prochaines élections présidentielles américaines qui auront lieu dans 2 ans, en 2024. Alors pour comprendre ce que l'ancien président a dans la tête, mieux vaut demander à un vrai Trumpiste, on ne les entend jamais en France, et pourtant ils sont encore nombreux aux États-Unis. Guy Millière, bonjour.
Bonjour.
Ancien président de l'Institut Turgot à Paris, vous vivez depuis plusieurs années en Amérique, où vous êtes devenu un ardent supporter de Trump. Vous avez publié « La révolution Trump ne fait que commencer » et là vient de paraître chez Ballant Après la démocratie, l'Amérique et le monde au temps de l'administration Biden. Vous avez été reçu jeudi dernier dans la propriété de l'ancien président à Mar-a-Lago. Je suppose qu'il était très confiant selon son habitude. Il est persuadé de l'emporter, non ?
Oui, tout à fait. Il est très très confiant. Il est très dynamique. Je dirais que beaucoup de gens insistent sur son âge. Si vous le rencontrez, vous voyez qu'il fait 10 ans de moins que son âge. Il est très dynamique. Il est très très confiant. Oui, il n'y a aucun problème de ce côté-là.
Donald Trump se voit comme un éternel triomphateur. C'est le plus grand homme d'affaires de tous les temps, le plus grand président que la Terre ait jamais porté, alors que ses adversaires le considèrent comme un loser. D'abord parce qu'il a connu plusieurs faillites dans ses hôtels et ses casinos, mais aussi sa compagnie aérienne. Et puis parce qu'ils estiment qu'il a été battu de 3 millions de voix par Hillary Clinton en 2016, de 7 millions de voix par Joe Biden en 2020. Il a perdu la Chambre en 2018, le Sénat en 2020. Les candidats qu'il a soutenus ont été, pour un certain nombre d'entre eux, en tout cas, battus la semaine dernière lors des midterms. Pourquoi lui faites-vous encore une telle confiance, vous ?
Je lui fais confiance d'une part parce que le bilan de ces 4 années de présidence, on a tendance à ne pas le souligner dans le contexte français, a été un bilan absolument remarquable. Je dirais que c'était 4 années de croissance, de retour des investissements vers les États-Unis, de retour au plein emploi. Tout cela a été brisé par le moment du Covid, mais à peine le Covid avait disparu que le retour à la croissance et le chemin vers le plein emploi se faisait. Et je dirais que pour beaucoup de gens, pour la quasi-totalité des gens que je peux rencontrer aux États-Unis, les années Trump ont été les meilleures années de leur vie, ou tout au moins les 3 premières années, puisqu'après il y a eu le Covid. Je dirais qu'il y a une haine irrationnelle qui a été développée contre Donald Trump. Si vous regardez le bilan de sa présidence, il y a le bilan intérieur, et ce bilan est absolument excellent selon tout le monde, et il y a le bilan extérieur. Si l'on regarde le bilan extérieur, Donald Trump a détruit l'État islamique, Donald Trump a asphyxié le régime iranien, et du coup le terrorisme mondial, le terrorisme islamique qui était largement financé par l'Iran, toutes les formes de terrorisme islamique, y compris Al-Qaïda, a diminué. Le seul groupe terroriste islamique qui n'était pas financé par l'Iran, c'était l'État islamique, qui a été détruit, comme je le disais. La Chine a elle-même été endiguée. La Russie a été endiguée. Je pense que si Donald Trump était toujours président, il n'y aurait pas la guerre en Ukraine actuellement. Donald Trump a su être très dissuasif. Je dirais que sa doctrine en politique étrangère était celle de Ronald Reagan, qui est son grand modèle, c'est-à-dire « peace through strength », la paix par la puissance. Et je dirais qu'il a obtenu la paix par la puissance. Et je dirais que s'il a obtenu ses résultats intérieurs, c'est qu'il a suivi la même politique que Ronald Reagan en son temps, c'est-à-dire déréglementation et baisse massive des impôts. Si la campagne qui a été faite récemment par les républicains avait été basée sur des questions simples, c'est-à-dire, par exemple, est-ce que vous êtes plus heureux après 2 années de présidence Biden qu'après 4 années de présidence Trump, je pense que la situation aurait été très différente. Mais si vous avez ce résultat des élections qui viennent d'avoir lieu, c'est dans la mesure où il y a un combat au sein du parti républicain entre les républicains trumpistes et l'establishment républicain. Et l'establishment républicain a toujours voulu éliminer Trump. Il ne fait pas partie du sérail, il ne fait pas partie de leur ensemble. Et l'establishment républicain a tout fait pour faire perdre un certain nombre de candidats que soutenait Donald Trump en leur coupant les vivres, en leur coupant les moyens de mener campagne. Des millions de dollars ont été mis par l'establishment républicain sur des candidats qui n'avaient aucune chance de gagner. Et par contre, de l'argent a été retiré à des candidats qui avaient toutes les chances de gagner.
J'imagine que c'est ce qu'il pense aussi, Donald Trump, aujourd'hui. Celui que vous avez vu chez lui à Mar-a-Lago jeudi soir, il tenait des propos similaires à ceux que vous venez de tenir ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Il pense que l'establishment républicain veut le faire perdre. Et je dirais qu'il veut triompher tout à la fois contre les démocrates et contre l'establishment républicain. C'est presque une lutte à mort entre lui et l'establishment républicain. Et il considère que l'establishment républicain n'a aucune chance de gagner à nouveau la présidence et aucune chance de gouverner les États-Unis ultérieurement. Il pense que les prochaines élections présidentielles seront des élections essentielles parce que les démocrates transforment radicalement le pays en ce moment. Et il pense que si ce que font les démocrates n'est pas arrêté, les conséquences vont être extrêmement lourdes. Les États-Unis vont être un pays méconnaissable. Et je dirais que d'ailleurs, on parle très très peu dans le contexte français de ce que font les démocrates en ce moment aux États-Unis. Et je dirais que je détaille tout cela dans mon livre.
On va en parler, Guy Millière. Oui, fait juste une pause et je vous pose la question juste après.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Guy Millière qui publie « Après la démocratie » avec un point d'interrogation quand même. Hein. C'est sous-titré « L'Amérique et le monde au temps de l'administration Biden ». Ça vient de paraître chez Ballant. Je le disais au tout début de cette émission, Guy, vous êtes un véritable intellectuel trumpiste, hein, comme on n'en entend jamais en France. Alors justement, cette administration Biden, qu'est-ce que vous lui reprochez ? Alors, un, d'avoir volé l'élection, vous en êtes toujours persuadé, hein, j'imagine, et puis surtout de transformer l'Amérique. Alors, vous avez la parole.
Pour ce qui est des fraudes de novembre 2020, je consacre tout un chapitre à ce sujet. Et au fur et à mesure que j'écrivais le livre, je me disais, ce que j'écris n'est jamais dit en France. Pourtant, c'est très documenté, c'est établi. Et c'est pour cela que le livre a 582 notes de bas de page. C'est-à-dire que tout ce que j'énonce est sourcé, documenté, précis. Et bon, je laisse la question de ce qui s'est passé en novembre 2020 de côté. Je vais parler de ce que fait l'administration Biden. L'administration Biden a commencé, et c'est une décision extrêmement grave, par décider de limiter très fortement la production de pétrole aux États-Unis. Et elle a commencé par un geste très symbolique. Elle a arrêté un pipeline qui s'appelle le Keystone Pipeline, qui permettait d'amener du pétrole de schiste du Canada vers les raffineries américaines. Le résultat de cette décision et d'autres décisions ultérieures, c'est que les États-Unis sont passés de l'indépendance énergétique. À la fin de la présidence Trump, les États-Unis étaient le premier producteur de pétrole et de gaz du monde et exportaient même du gaz et du pétrole. Maintenant, ils exportent encore du gaz, mais maintenant, ils sont, sur le plan du pétrole, dépendants de pays étrangers. Et ça a des conséquences géopolitique. Et ça a aussi pour conséquence un renchérissement très fort du prix du pétrole. Pour les Américains, le carburant à la pompe a doublé. Deuxième décision, l'administration Biden a dépensé des milliers de milliards dans des projets environnementaux en devant financer cela soit par des emprunts, soit par l'émission de monnaie. Et quand vous augmentez la masse monétaire beaucoup plus vite que le produit intérieur brut ne croît, vous avez pour résultat de l'inflation. Et donc aux États-Unis, vous avez une inflation qui est la plus forte inflation depuis plus de 40 ans maintenant. Et je dirais que ça a un impact particulier sur les produits de première nécessité. Et beaucoup de familles ont de graves difficultés actuellement. Les prix alimentaires ont augmenté selon les produits de 20 à 25% à peu près, ce qui est absolument considérable en une période aussi courte. J'ajouterais que l'administration Biden a arrêté la construction du mur qui sépare les États-Unis du Mexique, qui était quasiment fini à la fin de la présidence Trump, et a donné pour ordre aux brigades de la frontière, aux Border Patrol, de cesser de renvoyer les immigrants clandestins, les immigrants illégaux vers le Mexique, et de leur donner simplement un papier leur disant « on vous prie de vous présenter devant un juge quand vous le décidez ». déciderait, et bien évidemment, quasiment aucun ne se présente devant un juge. Le résultat, c'est que vous avez eu, depuis le début de la présidence Biden, 5,5 millions d'immigrants clandestins, d'immigrants illégaux, qui sont entrés dans le pays et qui ont été disséminés dans tout le pays. Parmi ces immigrants illégaux, vous avez beaucoup de membres de gangs, de truands, qui avaient été expulsés sous Trump et qui sont dans le pays. Résultat, une augmentation très forte de la criminalité dans toutes les grandes villes. Et les cartels de passage des immigrants clandestins sont aussi des cartels de la drogue. Et vous avez un produit qui fait des ravages maintenant aux États-Unis et qui tue 200 personnes par jour à peu près, c'est le fentanyl. Le fentanyl est fabriqué en Chine. Il est importé à l'intérieur des États-Unis par les passeurs d'immigrants clandestins qui font aussi passer de la drogue. Donc je dirais qu'il y a quelque chose de très nocif qui a été fait, puisque quand vous faites augmenter la criminalité, quand vous installez des immigrants illégaux dans le pays, vous déstabiliser le pays. Et donc toutes ces décisions sont des décisions extrêmement graves. Et puis je dirais qu'il y a d'autres choses. Si vous regardez la façon dont la justice fonctionne, vous voyez qu'il y a de plus en plus une justice politique. Vous voyez que le FBI est utilisé par l'administration Biden comme une police politique. Vous voyez que vous avez des parents d'élèves qui se sont insurgés contre la transformation des programmes que veut l'administration Biden et qui ont été traités de terroristes intérieurs. Vous avez une situation extrêmement malsaine qui s'installe dans le pays, et c'est précisément parce que cette situation malsaine est installée dans le pays que j'ai appelé le livre « Après la démocratie ».
Alors je vous interromps, Guy Mulliard, oui. Parce que cette déclaration de candidature précipitée de Donald Trump, hein, dans la foulée d'une élection qui n'a pas été gagnée comme les républicains l'espéraient, ça semble s'expliquer par la volonté de marquer son territoire. Il veut être le premier pour dissuader ses concurrents de se présenter contre lui, notamment Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, qui vient d'être réélu triomphalement et que le parti semble préférer désormais à Donald Trump, empêtré dans les affaires judiciaires et qui fait fuir, paraît-il, les gros donateurs.
Ben, je dirais que le parti républicain, effectivement, semble s'orienter vers Ron DeSantis, parce que Ron DeSantis est quelqu'un qu'ils peuvent plus facilement contrôler, parce que Donald Trump est indépendant financièrement et ne dépend de personne. Et je peux vous dire qu'il y a comme des gros donateurs. Jeudi soir, à la table de Donald Trump, il y avait des gens extrêmement riches qui sont toujours prêts à le soutenir. Mais il est vrai que l'establishment républicain voudrait lui préférer quelqu'un d'autre. Mais je pense que ça crée une situation extrêmement dangereuse. Je pense que Donald Trump a toutes les chances d'être le candidat. Je pense qu'il sera le candidat républicain. Il jouit toujours d'un énorme soutien actuellement aux États-Unis. Mais si l'establishment républicain veut absolument présenter Ron DeSantis, je pense qu'il y aura un combat entre Trump et Ron DeSantis. Je pense que Trump sortira victorieux, mais que le parti républicain apparaîtra très divisé et que ce sera un visa pour l'élection d'un démocrate en 2024. Je pense qu'une solution intelligente, ce serait de laisser Donald Trump être candidat cette fois. Je pense qu'il a de grandes chances d'être réélu, et de préparer Ron DeSantis pour 2028.
Eh bien voilà, si vous voulez comprendre ce qu'il y a dans la tête de Donald Trump et de ses supporters, lisez le livre de Guy Mulliard, Après la démocratie, aux éditions Ballan. Merci Guy Mulliard d'avoir bien voulu répondre à mes questions. On marque une pause et l'on se retrouve avec l'historien André Benjabar qui va nous raconter comment la France est devenue au XXe siècle la quatrième puissance nucléaire de l'histoire. Merci Guy Mulliard.
Merci beaucoup.
Europe 1,
c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï.